Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 28. À Athènes, trois générations, une crise.
Full Continental. Caroline Gillet sur France Inter.
On va commencer cet épisode avec une danse de l'illusion de la liberté. C'est une pièce qui s'appelle A Kind of Fears, qui a été créée et dansée par la jeune artiste grecque Katharina Andreou. On la voit sur scène habillée en noir avec un pull jaune vif. Elle est en collant, alors on n'entend pas trop les bruits de ses pas sur le tapis de danse. Elle est seule sur scène, elle danse des gestes appris, mécaniques. C'est beau et touchant parce que c'est un peu bizarre, comme des mouvements obligés. Et puis elle ralentit, elle se met par terre, elle se roule, elle prend son temps. Et quand arrive cette musique ? Alors elle danse furieusement et joyeusement, et elle jette ses cheveux en l'air avec ses mains, elle sautille, il y a peut-être parfois dans ses pas des réminiscences de danse traditionnelle, folklorique. Je remarque maintenant qu'elle a des traits jaunes sur le visage, et j'ai un peu envie d'être sur le plateau avec elle. Dans le dossier de presse, je lis qu'avec ses gestes, elle veut parler d'audace, de courage. Quand elle évoque sa danse, Katharina dit aussi qu'elle voulait répondre à ces questions qui la troublent. Est-ce qu'on peut parler du libre arbitre ? Quel est le seuil de négociation entre autonomie et autorité ? A Kind of Fears est une danse où, dit-elle, je cherche à trouver ce qui m'échappe. Une danse qui lutte contre l'idée du temps, la nostalgie, le regret, la peur, la fatalité ou même l'espoir. Une danse où tout importe et rien n'est important. Une danse libre. Voilà, c'était bien de danser pour commencer cette émission. On va maintenant parler d'histoire, de libre arbitre, d'autonomie et d'autorité. Et un peu aussi, mais je vous le dis dans un second temps parce que ça peut faire peur aux gens comme moi, mais peut-être que vous n'êtes pas des gens comme moi, mais aussi on parlera un peu de crise grecque, de finances, de banques, parce que cette année, c'est les 20 ans de l'euro. Et ces histoires de la crise financière et de la fille qui danse, elles ne devaient pas forcément être reliées. En tout cas, quand je l'ai rencontrée, Katharina, je ne savais pas très bien de quoi on allait parler. Et puis, elle m'a raconté où elle passait ses vacances d'été. Elle m'a raconté une histoire de collines, de gardes-frontières, de chemins à tracer pour chercher de l'eau. Elle m'a raconté le destin de son père et de son grand-père. Et ça m'aidait à comprendre ce qu'avaient pu vivre les Grecs, leur rapport à la richesse, à l'avenir et à la capacité, à la liberté ou non, de faire des projets de vie. Une capacité qui a été sérieusement empêchée par la crise grecque qui a frappé le pays en 2009 et dont on nous annonçait l'été dernier qu'on en sortait enfin. Voilà un petit medley de news de l'époque avec des bouts du génial journal de Bruno Duvic sur France Inter, un peu de France Culture et même des extraits de la Deutsche Welle.
Et c'est vrai que l'histoire de l'Europe ces dernières années, c'est une succession de crises et de déchirures. Et bien dans un pays où l'Europe est née il y a très longtemps, où elle a failli mourir il y a très peu de temps, se dessine un petit espoir de sortie de crise. La Grèce, depuis 8 ans, d'un côté, elle encaisse la purge de l'austérité, de l'autre, elle est sous assistance financière. Un accord a été trouvé cette nuit entre ministres des Finances de la zone euro pour débrancher la perfusion sans que le pays ne retombe malade. À partir du 20 août, la Grèce pourra à nouveau emprunter sur les marchés financiers. L'accord de cette nuit vise à alléger une nouvelle fois la dette qui reste très importante. Il y a encore des mesures d'austérité. Sortie de crise fragile dans un pays où le mot « Europe » est devenu pour beaucoup de gens synonyme de punition.
Comme elle le faisait avant la crise, comme le font tous les États endettés de la zone euro, bientôt la Grèce va devoir voguer sur les flots plus ou moins tumultueux des marchés financiers.
Thomaïs Papaioannou, quand le porte-parole du gouvernement grec dit « Je pense que le peuple grec peut sourire et respirer à nouveau », il a raison ?
Non, pas du tout. Et pourquoi ? Parce que finalement, rien ne va changer. Je vous donne juste un exemple qu'en janvier 2019, on va diminuer encore plus les retraites. Donc, il va avoir la 14e coupe dans les retraites et il va avoir encore une hausse des taxes en Grèce. Donc, voilà, rien en réalité n'échange dans la vie quotidienne des Grecs.
La Grèce n'est pas la seule à sortir d'un programme d'ajustement européen. Avant elle, il y a eu l'Irlande, le Portugal et Chypre, pour qui cela se passe plutôt bien.
Katharina, ses parents, ses grands-parents sont nés dans ce pays, la Grèce, quelques décennies avant tout ça. 30 ans tout pile avant le début de la crise des subprimes, en 1978, ses parents avaient décidé de s'installer en banlieue d'Athènes, et c'est là que naît Katharina.
Et mes parents font partie de cette génération qui sont grandis en village. Ma mère au sud de la Grèce et mon père au nord. Et ils se sont trouvés à Athènes pour des raisons professionnelles, pour pouvoir accéder aux rêves plutôt de l'Ouest, comme on dit. Et donc, ils se sont installés comme pauvres étudiants, j'imagine, au début, au centre-ville d'Athènes. Et quand ils étaient déjà, ils avaient déjà une carrière, ils gagnaient leur vie. Comme beaucoup de monde de cette génération-là, ont décidé de faire leur famille en banlieue.
On va s'arrêter sur ce qu'elle dit là, que ses parents, l'un et l'autre, ont grandi au village.
Mon imaginaire était plus stimulé par tout ça qui s'est passé au village de mon père, qui était dans la montagne, vraiment dans les forêts, et il y avait plus de mystère pour moi là.
On va s'arrêter dans cet endroit qui permet de raconter les décennies antérieures.
On visitait beaucoup, on passait les étés entiers. C'était un mode de vie très ascétique parce que jusqu'à l'âge de 8 ans, on n'avait pas d'électricité quand on allait là. Et il n'y avait pas vraiment de sol avec du béton, il y avait qu'un tapis sur, par terre. Et surtout, on n'avait pas de l'eau. Donc, il fallait chaque fois aller chercher l'eau à la source. Et ça devenait l'activité principale de la journée. Parce que pour une grande famille, de ramener autant d'eau, il fallait presque tout le monde y aller. Et c'était physique. Hein? Il y avait une fontaine assez bas. Il fallait vraiment descendre et remonter après, parce que notre maison était assez haut. Donc on parlait vraiment du côté d'une montagne. Donc tout était montée-descente, en fait. Il n'y avait pas de route de piétons. Donc c'était vraiment traverser le paysage pour aller d'un côté à l'autre. S'il y avait beaucoup de pluie, les chemins qui étaient tracés, ça faisait 15 jours, étaient détruits, il fallait trouver un autre. Mais le fait que tout peut tracer, sans avoir un Google Maps, ou moi j'ai goûté cette sensation de capacité de le faire. C'est comme si tout fait ton chemin.
Les grands-parents paternels de Katharina ont vécu toute leur vie dans ce hameau. Son grand-père n'a jamais de sa vie été jusqu'à Athènes. Elle m'envoie des musiques du village, j'aime bien celle-ci. Je lui demande à quoi ressemblait une journée d'été dans un hameau comme celui-là, tout petit hameau, où quand elle avait 15 ans, il ne restait plus qu'une vingtaine d'habitants.
Oui, très tôt le matin, je me rappelle plus jusqu'à quel âge je buvais le lait de chèvre, assez frais aussi. Nous, comme enfants, on ne faisait pas grand-chose, on se baladait tout autour. On faisait beaucoup de visites aussi, dans le peu de maisons. Je me rappelle, j'avais du mal à comprendre les gens quand ils parlaient. Mais...
Donc ça devait être intéressant, ce contraste entre la vie de tous les jours et puis les vacances.
Oui, pour moi, c'était, ça ouvrait un monde chaque fois que j'étais là. Les gens étaient très secs, très raides. Ils avaient ces dialectes aussi, cette manière de parler qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient très vieux à mes yeux. Tout le monde était très, très âgé. Presque tout le monde me faisait peur, mais c'était une peur assez intrigante.
Le père de Katharina était l'aîné de 5 enfants. Quand je demande à Katharina l'histoire qu'elle préférait entendre de la jeunesse de son père...
C'est fou, ça paraît comme une histoire, ça paraît comme un mythe, mais selon mon père, c'est la vérité. Ils étaient des grands-parents avec pas beaucoup d'affection manifestée.
Elle sait tout de suite quoi répondre.
Et mon grand-père était toujours quelqu'un qui me faisait énormément peur, parce que pour moi, Il criait tout le temps, mais après, il était vraiment très, très âgé. Et dans mon imaginaire, il devrait être un père très dur. Et quand j'ai dit ça à mon père, ça fait pas longtemps, j'étais vraiment adulte, j'avais, je sais pas, déjà 23, 24 ans, je lui ai dit, tu dois avoir des histoires de dingue avec le grand-papa, parce que quand même, il paraît très dur. Il m'a dit que c'était le contraire. C'était ma grand-mère, sa mère qui le frappait dès qu'il y avait une erreur. Elle frappait beaucoup ses enfants. Mon grand-père, il était policier de montagne, ce qui est assez les Cézanne-là étaient des hindous plutôt de droite aussi, même si à l'époque, Cézanne-là, il votait pas. Il savait pas qu'est-ce que c'est voter. Mais il avait ces boulots-là. Et c'était pendant la guerre civile en Grèce. Et il était dans un poste pour, et mon père m'a raconté cette histoire pour m'éprouver que lui, il était beaucoup plus dans l'affection que la mère. Que malgré le fait qu'il avait cette poste, il était le seul qui travaillait pour avoir un salaire de plus pour pouvoir survivre au village. Une fois, mon père, il était très malade. Il avait la pneumonie, en fait. Et il était fiévreux pendant longtemps. Et ma grand-mère a envoyé quelqu'un pour dire à mon grand-père que c'est grave, qu'ils vont perdre leur fils s'il n'arrive pas à l'amener à l'hôpital. Et mon grand-père a annoncé ça à son équipe de, c'est pas exactement policiers, mais des gardiens de frontières, quelque chose comme ça, de village en fait, parce que c'était la guerre civile, c'était assez intense. Il a dit, je dois partir et vous laisser. Le chef a dit, si tu pars, tu reviens plus. Donc, il perdait le seul job qu'il pouvait avoir en ce moment-là. Et lui, il est parti, par contre, il a fait 20 kilomètres à pied avec la neige, avec mon père sur les épaules. Il est amené à l'hôpital. Mon père dit c'est que comme ça qu'il est toujours en vie, parce que la pneumonie était très avancée. Et ce qui est fou, c'est que la nuit même, les ennemis, en fait, sont rentrés dans la chambre de ces policiers-là, des gardiens, et ils ont tué tout le monde. Et mon grand-père n'était pas là. Mon grand-père, donc, désormais, il disait à mon père qu'avec l'amour, tu peux sauver plutôt ta peau, ta propre peau, que la peau de l'autre, parce qu'il s'est senti qu'il a sauvé deux vies en même temps.
Le père de Katharina a ensuite été à Athènes pour les études, et il est devenu avocat. Il a rencontré sa mère, et comme on disait tout à l'heure, ils ont emménagé en banlieue en 78. Ils ont eu Katharina, ses deux sœurs et son frère. Elle m'écrit qu'elle se souvient enfant avoir été à des manifestations sur les épaules de son père, suivre les réunions du parti politique qu'il adorait écrit en majuscule, et puis en tant que jeune adulte, avoir été aux manifestations presque contre ce même parti que son père adorait. Quand elle a été en âge de faire des études, le métro est enfin arrivé jusqu'à la banlieue de ses parents. Alors Athènes et la fac de droit étaient plus proches, et comme son père, Katharina a fait des études pour devenir avocate.
Malgré ça, j'ai continué à faire des études de droit à l'université. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'est pas ça exactement que j'avais. Mais chez moi, en tout cas, je sais pas si pour tout le monde, mais chez moi, c'est un travail constant d'être sûr que les choix que j'ai faits sont 100% les miens et sont pas influencés par tout le reste.
Katharina dit qu'elle n'aimait pas le rapport aux clients, notamment. Et qu'en parallèle, elle se rendait bien compte qu'elle dansait de plus en plus. Un jour, elle a vu que pour rentrer à l'école supérieure de danse d'Athènes, la limite c'était 25 ans. Comme elle les avait presque, elle s'est dit qu'elle tenterait et puis qu'elle verrait. Il ne prenait que 25 des 300 candidats. Quand elle en a fait partie, quand elle a été sélectionnée, elle a décidé qu'elle avait le droit d'y aller et de lâcher le droit.
Plus tard, j'ai compris aussi une autre chose. Dans ma tête, et peut-être je me trompe, c'est une question de classe. Aussi, il y avait, c'est assez générationnel, mais il y avait beaucoup, en tout cas mes parents et beaucoup de parents de cette génération poussaient les enfants à aller à l'université et faire des métiers un peu plus nobles. Et noble, c'est être docteur, avocat, etc. Et c'est assez incroyable. Aujourd'hui, un avocat, un gré à Athènes, peut vraiment gagner que dalle, vraiment presque rien. C'est assez fou comment ça s'est inversé très vite. Cet état aussi d'esprit. Les parents aujourd'hui veulent que leurs enfants soient plutôt artisans pour pouvoir savoir au moins comment faire les choses avec leurs mains. À mon époque, c'était pas le cas. C'était une lutte vraiment pour être autrement. Et aussi, j'ai compris très vite que c'est une lutte aussi comme si j'étais en train d'appartenir à une autre classe, plus basse.
À l'époque, elle dit qu'elle a vite trouvé sa place parmi les danseurs, que ça l'a libérée de quelque chose, de pouvoir descendre de classe. D'avocate donc, devenir danseuse.
Et ça m'a libérée beaucoup aussi.
Et la crise, elle arrive en 2008, ou peut-être un peu après en Grèce.
Oui.
Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as vu que ça devenait grave?
On comprenait, à partir de 2008, il y avait beaucoup de rumeurs. Des gens qui parlaient des coupes budgétaires, que ça devient un peu plus difficile, mais comme beaucoup de choses en Grèce, c'était jamais assez alarmant. Parce que je pense qu'il y a un système aussi de médiation qui camoufle beaucoup les choses. En 2010, moi je suis partie et c'était depuis la France que j'ai eu les nouvelles de l'annonce du président que les caisses de la Grèce sont vides.
On va reprendre la suite de ce récit, mais d'abord voilà Cat Power, You Get, qui parle de ce qu'on se donne, ce qu'on perd et du temps qui passe. Djoubaka s'est dit que c'était pas mal pour marquer une pause. Vous pourriez totalement vous en servir pour un pas de danse si vous êtes du genre danse suave. Ensuite, on reprendra le récit de ces trois générations de Grecs, Katharina, son père, son grand-père. Et on va aussi, en deuxième partie, vous présenter l'Allemande Charlotte Geiger. Écoutez là tout de suite une émission qui s'appelle Full Continental. Vous êtes sur France Inter ou sur la RTBF la première. On s'intéresse ici à la jeunesse européenne, à nos imaginaires, nos récits, nos révoltes. Et bien sûr, parmi les événements qui ont marqué notre époque, l'Europe et la jeunesse d'aujourd'hui, il y a la crise grecque et ses effets qu'on ressent encore aujourd'hui. Pour se remettre dans le bain de cette crise, je vous propose de faire appel à ma collègue Marie Viennot et à son biais économique. Elle va nous réexpliquer, comme elle l'avait fait sur France Culture, la crise grecque en quelques minutes. Attention, c'est parti.
Si la Grèce faisait faillite, le chaos aurait été général. Il y a 8 ans, c'est parce qu'elle n'arrivait plus à se financer sur les marchés que ses partenaires européens l'ont secourue. Avec le FMI, les pays de la zone euro se sont donc en 2010 substitués aux marchés financiers et ils ont récupéré la dette grecque. Mais pas de gaieté de cœur et pas sans contrepartie, on le sait. En 8 ans, il y a eu 11 réformes des retraites. Les effectifs de la fonction publique ont fondu d'un tiers. Le SMIC a été réduit de 100 euros par mois.
On était assez choqués, je pense qu'il y avait une sorte de choc national.
Katharina Andreou est danseuse et chorégraphe grecque, on l'entendait tout à l'heure. Elle ne veut pas être porte-parole de son pays, elle ne veut pas être nostalgique. Elle dit « le retour en arrière me fatigue ». Mais cette crise fait partie de son histoire et de celle de ses parents.
On est arrivé à l'Union européenne assez tard, non ? Donc c'était tôt, on n'attendait pas que ça arrive aussi tôt, je pense. Les conséquences de cette richesse d'un coup très soudaine de la Grèce. Pas pareil, en fait. De passage à drachmé à l'euro, je me rappelle, les sons ont commencé très vite, les uns devenaient riches très vite, riches. En tout cas, il y avait d'un coup un pouvoir d'achat qui n'avait rien à voir avec avant. Et j'étais assez petite, mais je voyais les changements, même dans ma poche. Il y avait un pouvoir d'achat, en même temps, tout coûtait plus cher. C'était bizarre.
Est-ce que tu as des exemples peut-être de l'impact que ça a pu avoir sur ta famille, tes proches, pour essayer de comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé?
Oui, si je suis très pragmatique, par exemple, je connais beaucoup de monde, plutôt des amis qui ont perdu leur travail, que c'était très dur pour eux, pour survivre. Il y avait une grande discussion s'ils partent de la Grèce pour pouvoir aller trouver ailleurs quelque chose, même pas à leur expertise, un boulot qu'ils pouvaient faire, mais c'était pas facile de partir non plus. C'est pas juste, j'ai eu des gens qui étaient plutôt idéologiquement contre, en disant on va pas quitter le bateau maintenant, mais il y avait des gens aussi qui étaient plus pragmatiques, en disant que comment, déjà pour prendre les billets, louer quelque chose d'abord et chercher, c'était déjà un budget, hein. C'est pas facile à le faire comme ça, donc... Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis coincés. J'étais aussi en Grèce quand les banques ont fait le capital control. Ça veut dire que les gens ne pouvaient pas retirer de l'argent, sauf 300 par mois. Et ça, je me rappelle, même ma famille avait eu beaucoup de mal. Et ce n'était pas juste une question s'il y a de l'argent ou pas. C'est comme si ce n'était plus leur argent. S'ils avaient 2 000 dans la banque, je ne pouvais plus faire mes propres projets avec cet argent. C'était comme d'un coup, ouais, voilà, la banque était le parrain et mes parents sont devenus les enfants.
Katharina observe ces mutations depuis la France, parce qu'entre-temps, elle est partie intégrer l'ESSE, un master en création chorégraphique au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers.
Je pense qu'il y a beaucoup ces complexes, parfois qu'on a en Grèce, qu'on est très dans l'Est, et on veut faire partir de l'Ouest plutôt. Je l'avais, ça, je pense que je l'avais pas mal comme adolescente aussi, mais je suis partie par curiosité pour quelque chose d'autre.
En parallèle, elle travaille comme interprète. Elle garde un lien fort avec la maison de banlieue d'Athènes et ses habitants, ses parents, ses frères et sœurs.
Et je pouvais juste aider plutôt mon frère avec ses études, comme ça, ça soulageait un peu mes parents sur cet aspect-là. Et s'il y avait quelque chose vite à acheter, comme des médicaments, etc., je pouvais aussi, comme je n'avais pas une limite de retrait, je pouvais juste avancer avec ça. On parlait des sommes vraiment très petites. Hein. Je me rappelle bien, c'était 60 euros par semaine qu'ils pouvaient retirer. Donc,
Et le rapport à l'Europe, comment est-ce qu'il a évolué? Qu'est-ce qu'on ressent à l'égard de ces institutions, de la Troïka?
Troïka, c'est pour eux la vraie police, de manière.
Mais est-ce qu'ils comprennent ce qui s'est passé et pourquoi il a fallu intervenir comme ça? Ou est-ce qu'ils se disent que ça aurait pu être fait autrement?
Il y a les deux. Mais de toute manière, ils sont frustrés du fait que c'est finalement eux qui payent la plus grande partie des erreurs qu'ils trouvent aussi qui sont de l'ordre politique ou économique
de nos gouvernements. Katharina me parle aussi de la spéculation immobilière. Beaucoup de Grecs dans le centre d'Athènes choisissent de vendre leurs biens. Beaucoup deviennent des Airbnb. Le centre-ville se vide des habitants pour laisser place aux touristes de passage.
Ça me fait peur, mais j'essaie de ne pas voir mon pays comme un décor qu'ils avaient retrouvé comme avant, juste pour des raisons nostalgiques.
Charlotte Geiger a fait partie des touristes qui ont visité la Grèce et Athènes.
En voyageant en Grèce en tant qu'Allemande, on a toujours, ou moi personnellement, j'ai un peu de mal de dire que je suis allemande. Comme je voyage aussi avec une famille francophone, j'ai la chance de ne pas devoir parler allemand en Grèce et ça me soulage. C'est ça. Donc, parce que je trouve que justement la politique allemande a fait beaucoup souffrir aussi les Grecs et c'était très injuste.
Elle, Charlotte, je l'ai rencontrée à Bruxelles. Elle occupe un bureau pas loin des institutions européennes. Sur les sonnettes du bâtiment, il y a European Network Against Racism, Bruxelles Propreté, Finance Watch et Positive Money, Interferi et des acronymes RICS, EXA, VDS. Il y a aussi l'Association européenne des propriétaires de bateaux et aussi l'Association allemande des propriétaires de bateaux. Charlotte ne travaille pas pour les bateaux ni pour la propreté, elle travaille pour cette ONG, Finance Watch. Elle m'accueille dans une salle de réunion, un personnel, blanche, avec de la moquette qui sent le neuf, et séparée d'open space par des grandes baies vitrées. Il n'y a pas un poster, on est vraiment dans l'incarnation du froid. Je me demande si ces gens, chez eux, sont obligés de mettre des vieux objets de famille, des posters moches, des collections de sous-verres de bière pour compenser. Mais donc Charlotte m'accueille en salle de réunion, elle met sa carte de visite sur le bureau, le dossier de Finance Watch, son bilan annuel 2017. Charlotte est chargée de communication de cette ONG qui lutte contre les lobbies bancaires et propose, je la cite, « des solutions et des contre-arguments pour une finance au service de la société et pas seulement des banques ». Je la rencontrerai en réalité pour le prochain épisode sur les banques justement. Et à vrai dire, je m'attendais plutôt à interroger un de ses collègues. Et puis, contre toute attente, j'ai adoré écouter Charlotte parler de finances. Je ne sais pas si vous allez l'entendre comme moi, le sourire dans sa voix quand elle parle de ces choses-là. Charlotte est rousse et quand elle évoque la finance, on a l'impression qu'elle parle d'amour. Mais commençons par le commencement.
Il y avait la crise financière et puis je me suis dit, mais comment c'est possible que même les politiciens ne semblent rien comprendre?
Il y a eu un poste qui s'est libéré chez Finance Watch et elle a postulé. Elle aimerait bien participer à empêcher une nouvelle crise financière, notamment en Grèce.
En effet, j'ai quand même encore été en Grèce il y a deux ans, je crois, même avant. Et donc j'avais vu, c'était à l'époque, il y avait Varoufakis, donc le ministre des Finances, qui était en négociation avec la Troïka. Et donc il était justement à l'endroit où je passais mes vacances, sur une place. Et il y avait beaucoup de Grecs qui écoutaient et qui en effet qui voulaient comprendre toutes ces négociations qui se faisaient avec l'Europe et où ils étaient. Et donc, c'était fascinant de voir je dirais, il y avait 2000, 3000 personnes sur une petite place. Et Varoufakis, il était en face, il parlait et les gens écoutaient. Écoutaient calmement. Et ça m'a vraiment impressionnée. Mais ce que j'ai appris sur les conditions de vie, malheureusement, ils souffrent vraiment. J'ai l'impression que... Et je ne veux pas blâmer non plus les citoyens allemands. Je crois qu'on leur a expliqué les choses pas d'une bonne façon. On leur a expliqué comme quoi c'était les Grecs qui n'avaient pas bien travaillé, qui étaient paresseux, etc. Donc,
Voilà comment Jean-Claude Trichet explique encore aujourd'hui la crise grecque. Il était président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. La Banque Centrale Européenne, le FMI, l'Union Européenne sous le leadership de l'Allemagne ont été les grands partisans des mesures d'austérité qui ont été imposées à la Grèce. Il intervenait à un événement organisé par l'OCDE.
Le problème grec, il n'est pas né après la crise grecque, il est né avant. Parce que les gouvernements précédents, de droite et de gauche, avaient laissé une situation dans laquelle la Grèce était totalement déséquilibrée. 15% du produit intérieur brut de déficit budgétaire, 15% de déficit de la balance des paiements courants. Donc avant la crise, la Grèce demandait au reste du monde de la financer pour ce qu'elle dépensait sans limite. Après la crise, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous reveniez à l'équilibre. Et revenir à l'équilibre, c'est toujours extrêmement difficile. Donc je crois qu'il faut que chacun soit responsable. Heureusement, on a viré un très très grand nombre de responsables et pratiquement tous les responsables des banques qui ont provoqué, disons, les difficultés ont été virés. Les actionnaires ont perdu beaucoup beaucoup d'argent dans la crise, ce qui est évidemment absolument normal. Troisièmement, contrairement à ce qu'on croit, les gouvernements finalement et les parlements n'ont, dans la plupart des pays, pas perdu d'argent parce que comme on a surmonté la crise, ils ont été remboursés des prêts qu'ils avaient faits. Et au total, si vous voulez, on a renforcé les exigences en capital et les exigences en liquidité considérablement.
Vous avez parlé d'erreurs pardonnables et d'erreurs impardonnables dans l'anticipation et dans la gestion de la crise. Oui. Est-ce qu'il y a une erreur dont vous-même vous vous sentez responsable et que vous ne pardonnez pas ?
Écoutez, c'est une question directe. Je ne crois pas que la politique monétaire européenne menée par la Banque Centrale Européenne ait été l'une des causes majeures.
Mais ce qu'on a surtout vu, qu'après, quand on a sauvé la Grèce, ce que les Allemands ne voulaient pas, ce qu'on a surtout sauvé, c'était aussi les banques qui avaient investi en Grèce. Et ces banques-là, c'était des banques allemandes, des banques françaises, etc. Donc, moi-même, j'ai lu dans un article récemment que c'est Madame Merkel qui, comme elle est un peu à la fin de sa présidence, disons, elle fait un peu des discours où elle fait un bilan de ce qu'elle a fait pendant les dernières 13 ans au gouvernement. Ce qui est un peu étonnant pour Madame Merkel, parce que souvent, elle reste quand même très diplomatique. Donc, mais là, elle-même, apparemment, elle remet en question la politique qu'elle a poussée envers la Grèce, en disant que, justement, on voit bien que les politiques d'austérité ont bien fait les choses pires que bien, et que maintenant, la Grèce... souffre encore et se remet pas de cette crise aussi parce que les politiques qu'on a mis en place étaient apparemment pas les bonnes. Donc je crois qu'il y a même au niveau du gouvernement allemand une remise en question et les grandes organisations comme le FMI, etc. depuis longtemps, elles disent que ces politiques c'était vraiment le mauvais choix et je crois qu'il y a une grande remise en question, mais ça ne veut pas dire que après la prochaine crise, est-ce qu'on ne va pas réagir de la même façon. Hein, ça, j'espère pas, mais c'est encore à prouver. On ne doit pas penser que c'est lié à la Grèce ou au comportement des Grecs qui a cette crise en Grèce, mais c'est beaucoup plus lié au fait que il n'y a pas une politique fiscale européenne. Donc d'avoir une monnaie commune sans avoir un système fiscal commun, cela ne peut pas fonctionner. Et donc après de blâmer les uns contre les autres, je trouve que ça c'est une tactique qui ne montre pas le vrai problème. il faudrait comprendre qu'on a des intérêts communs. Tous les citoyens en Europe, on a des intérêts très, très communs. Par exemple, lutter contre le changement climatique, encadrer mieux la finance pour que nos systèmes aussi sociaux ne soient pas affaiblis après chaque crise avec des politiques d'austérité. Donc, je crois cet esprit, il est là et on a tous intérêt à lutter ensemble pour et ne pas tomber dans le piège de penser que on a des intérêts différents les uns des autres.
On en parlait en début d'émission, l'été dernier, la Grèce est enfin sortie de la tutelle de Bruxelles et du FMI. Voici un extrait d'archives du journal de 13h de Bruno Duvic. Sur France Inter, il interviewait Thomaïs Papayoannou, correspondante à Paris, de l'ERT, la télévision publique grecque et chypriote. C'était en juin dernier.
Dans quel état est votre pays après 8 ans, à la fois de perfusion financière et de mesures d'austérité? Dans quel état est le pays?
C'est mitigé, hein. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus la vie en rose. Et question bon côté, c'est que à cause de la Troïka, ou grâce à la Troïka, certains aspects de la vie grecque ont changé. Par exemple, l'immense corruption qui régnait dans le pays, elle a été vraiment circonscrite. Ça va pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est très limitée. Il y a eu quelques réformes extrêmement nécessaire pour la survie du pays. Mais on n'est pas allé jusqu'au fond de ces réformes nécessaires. Par contre, on a fait exploser les taxes, parce que sous le prétexte que les Grecs ne payaient pas des taxes, maintenant ils payent plus de 75% de leurs revenus globaux à l'État. Et on a bien sûr, on a coupé dans les retraites et dans les salaires tellement que non seulement la vie est tellement chère à cause des taxations, mais en même temps, les salaires ont chuté. Donc, il y a un problème de survie maintenant pour la population. Ils ont l'impression que la grande majorité de la population paye pour les péchés des certains. Mmh. Et ces certains-là ne payent toujours pas.
C'est qui, ces certains-là?
Et c'est un système des oligarques et un système judiciaire qui ne fonctionne plus, qui est en panne, qui n'a pas été réformé. Et on a toujours les mêmes familles plus ou moins qui règnent sur le pays. Par exemple, le leader de l'opposition du Parti de Nouvelle Démocratie est fils d'un ex-premier ministre grec. Et aussi, bien sûr, les médias qui n'ont pas su se renouveler. Toute cette caste n'a pas su se réformer.
Toi, tu ressentais quoi à l'époque? Est-ce que tu étais fâchée? Est-ce que tu étais triste?
J'étais très triste pour les uns qui se connaissaient déjà, parce que je sentais l'air désespoir.
Revenons quelques instants à Katharina, qui est donc chorégraphe et danseuse.
Quand je parle de désespoir, c'est un sentiment qui m'effraie personnellement aussi, qu'on ne peut pas faire une projection au futur, on ne peut pas avoir des projets. Il y avait une population, voilà, en Grèce, à une époque, qui les uns, c'est mon projet, ils ne pouvaient même pas l'annoncer, ils l'imaginaient, parce qu'il n'y avait pas le... Ils savaient pas qu'est-ce qui va se passer, en fait. Ils savaient que les salaires vont réduire de plus en plus, que ça va de pire en pire. Personnellement, chacun pouvait pas faire une petite projection pour le futur.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ta famille, du coup, tes grands-parents ne faisaient pas de projets, sans doute non plus, puisqu'ils avaient pas de, ils vivaient au jour le jour. Et donc, entre-temps, on est passé par la génération de tes parents qui avaient du travail, avocat.
Oui, oui.
Et puis, en fait, une génération après, déjà, c'est un droit, celui de faire des projets, qui vous est retiré.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça allait hyper vite, cette histoire. Je ne sais pas comment ça va continuer, mais surtout la génération de mes parents ont vécu une immense pauvreté. Si je crois la description de comment mon père ou ma mère vivaient, beaucoup de cruauté dans leur vie, dans tous les sens, même dans les rapports aux parents, aux autres, etc. Ils ont vécu ces croissances incroyables au niveau de savoir, éducation, carrière, argent. Il y avait un côté comme si d'un coup on peut tout avoir si on veut. Et si on travaille beaucoup, parce que les deux, surtout mon père, travaillait énormément pour arriver à tout ça. Et les deux ont vécu aussi la descente. Mon père, par exemple, a vécu sans électricité, sans eau dans la maison. A vécu le téléphone portable pour avec ses clients, et il peut allumer un ordinateur, et il a compris qu'est-ce que ça fait l'internet. Mais aujourd'hui, il s'est trouvé très vite à une époque où il fallait aller à la banque, attendre à l'âge de 72 ans devant un fil de un que tu vois beaucoup de monde de prendre 60 euros par semaine pour pouvoir prendre ces médicaments. C'est quand même assez incroyable, ces voyages. Et aussi, au niveau politique aussi, ils ont vécu la dictature, par exemple. C'était une dictature qui pouvait pas sortir de leur maison. Mmh. Et leur enfant, moi, je peux, voilà, traverser le monde avec mon spectacle. C'est quand même assez hallucinant, la différence.
Aujourd'hui, cette situation économique, elle a évolué. On en est où aujourd'hui en Grèce? On a l'impression que le pire est derrière nous.
Ma famille pense que c'est vraiment beaucoup mieux déjà, c'est vrai, c'est pas comme le début. Ils ont pas de réduction dans leur salaire non plus, c'est assez bas déjà, mais c'est pas, il n'y a plus de réduction. Les retraites de mes parents sont stabilisées. Par contre, la peur qui est installée encore, selon ma famille, c'est que ça va s'empirer à un moment. Il y aura une deuxième vague, comme on dit. Je pense que c'est aussi parce que les gens dans la situation ont changé les rapports à la situation. Je pense que c'est un double mouvement. Ils ont travaillé eux-mêmes pour mieux vivre la situation. Et ça change beaucoup l'esprit des choses. Ils ont trouvé leur stratégie. Ma sœur, elle est enceinte. Je pense pas qu'elle pensait à faire ça des ans plus tôt. Mais je pense pas parce qu'elle gagne plus maintenant ou parce qu'elle est soulagée. Je pense que c'est juste parce que... Il y a ses prises à un moment, et si c'est ça qu'il veut faire, il va faire.
Dans le prochain épisode, on entendra Aline Fares. Elle aussi, comme Katharina, a changé de carrière, elle était banquière. Elle est devenue magicienne, un peu. Non mais elle aimerait pas que je dise ça, je pense. On va dire qu'elle a commencé à faire des rituels. Dans le prochain épisode, on va parler de ce qui s'est passé en 2008, on va parler des banques, et comme c'est pas un sujet facile, on va y mettre un peu de magie. Merci à Katharina Andréou pour sa confiance. Vous pouvez aller voir son travail les 15 et 16 mars dans la grande salle du Centre Pompidou à Paris ou encore entre le 5 et le 7 avril dans la programmation d'Aero Waves à la Briqueterie. Elle fait partie des 20 jeunes artistes européens sélectionnés pour ce projet. On mettra toutes les informations sur le site de la page Full Continental sur la RTBF La Première et sur franceinter.fr. Vous retrouverez lundi Full Continental en kiosque, dans la double page de Libération qui est consacrée aux élections européennes, comme tous les lundis jusqu'en mai. Merci à Claire Brault pour ses dessins, à Benjamin Riquet qui est à la réalisation, Martine Messonnier au montage, Constance Cabouret qui m'a aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Louise Cognard. Et merci à vous pour votre écoute. À dimanche prochain.